Alors, j'ai demandé à Bruno, tiens, est-ce qu'il y a une série dans laquelle vous vous êtes lancé? Et il me disait que, j'espère, là, je vais pas tout casser, mais qu'apparemment, il y a une série qui s'est mise en place sur les valeurs et les principes du royaume de Dieu. Et vraiment, ça m'a inspiré. Je suis content, il y a des sujets peut-être plus délicats, mais ça, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Et j'aimerais vous parler ce matin d'une des valeurs, d'un des principes du royaume de Dieu, qui est très tabou, que les pasteurs en général n'aiment pas trop aborder. Est-ce que vous avez une idée duquel ? Pas du sexe. Ben oui, effectivement, des finances, et de la façon dont Dieu nous demande de gérer nos finances. Et je suis content que justement je suis un prédicateur invité, parce que dans ces cas-là, je viens, je dis et je m'en vais. Je te laisse avec le reste, Bruno. Mais c'est un sujet qui est devenu tabou, et je pense que ça ne devrait pas, frères et sœurs, être un sujet tabou, puisque quand on y regarde, est-ce que la Bible nous parle d'argent ? Oui. Est-ce que Jésus, dans son ministère sur terre, a parlé d'argent ? Oui. Donc, pourquoi est-ce que nos églises ne devraient pas parler d'argent ? Est-ce que les dérives qui ont eu lieu dans les mouvements sectaires sont une raison suffisante pour ne pas parler d'argent ? Bien évidemment que non. Et est-ce que notre monde francophone, qui est très pudique au niveau de l'argent, on ne demande pas à quelqu'un dans le monde francophone combien tu gagnes, ça ne se fait pas. Dans le monde anglo-saxon, ça se fait vraiment de manière naturelle, ce n'est pas un sujet tabou. Mais dans notre culture francophone, c'est devenu un sujet tabou. Et je crois que le pire danger quand ce genre de sujet devient tabou, c'est une porte ouverte pour que le diable lui dise comment il voit les choses. Et que le monde nous dicte notre conduite face à nos finances, soit à notre argent, face à notre budget. Or, la Bible nous parle de ces choses-là. Et j'avais à Moucron reçu un moment un petit mot d'une sœur qui nous avait dit, qui avait écrit « Enseigne-nous sur le sujet des dîmes et des offrandes ». Et elle avait mis comme passage biblique, et j'ai beaucoup aimé le passage biblique qu'elle avait mis, c'est ce passage que vous connaissez dans Osée, où Osée dit « Mon peuple », où c'est Dieu qui parle, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Et si, au sujet des finances, on n'explique pas comment, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que citoyen du ciel, on est amené à gérer nos finances, eh bien, c'est le champ ouvert pour le diable nous dire comment est-ce que lui veut qu'on gère nos finances. Donc c'est pour ça que j'ai eu à cœur de vous parler de ça ce matin. Et le thème de base, c'est de pouvoir utiliser, enfin la vérité de base sur laquelle je vais construire mon message, c'est de dire que l'argent doit devenir un serviteur et non pas un maître. Vous connaissez ce dicton qui dit « l'argent c'est un bon serviteur, un mauvais maître ». Et c'est une vérité toute biblique. Jésus, il va dire à un moment qu'on ne peut pas servir Dieu et mammon. Et c'est intéressant, Jésus va pas dire on peut pas servir Dieu et Satan, parce que ça c'est logique, c'est de toute évidence, on peut pas marcher dans un sens et servir Satan, ce serait dans un autre sens. Mais Mammon, c'est le Dieu qui personnifie les richesses. Et Jésus va dire on peut pas servir à la fois Dieu et à la fois Mammon. C'est comme, vous savez, un angle ouvert de 1 ou 2 degrés. Si vous marchez dans une direction et qu'au lieu de prendre la direction pile, vous déviez de 1 degré, si vous faites quelques pas, ça ne va pas se voir. Mais si on se retrouve dans 1 km, là, la distance créée, elle sera énorme. Et finalement, quand on sert Dieu et Mammon, eh bien, la nuance, elle est subtile. On peut facilement dévier. Et c'est pour ça que Jésus va dire, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où tu places tes richesses, c'est là où tu placeras ce qui est le plus important pour toi. Et dans l'histoire de l'Église, il y a toujours eu deux extrêmes. Un extrême qui était de dire il faut faire vœu de pauvreté, plus rien nous appartient, même les vêtements qu'on porte, rien nous appartient. Et l'autre extrême, et c'est très en vogue en ce moment, c'est ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, où on nous dit, voilà, quand tu crois en Dieu, que tu places ta confiance en lui, eh bien, tout te réussit. Tu as un bon travail, un beau salaire, une belle bagnole, une belle maison, même tes gamins, ils sont beaux. Et Dieu, il réserve les gamins moches pour les autres, mais toi, il va donner que des beaux enfants. Et tous ceux, je ne vais pas dire qui ont des enfants, mais tous ceux qui vivent, savent que ce n'est pas ça la réalité. Que c'est pas parce que on place notre confiance en Dieu que tout nous réussit. Ce serait trop facile. Et j'aime bien cette série où on parle du royaume de Dieu, de ses principes, de ses valeurs. Et je crois, alors j'espère pas jeter un pavé dans la mare, mais pour moi, le royaume de Dieu, c'est pas le paradis, c'est pas la vie après la mort. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu est roi. Et si dans nos vies, Dieu est roi, eh bien nous sommes citoyens du ciel déjà ici sur terre. Le royaume de Dieu est venu sur terre. Si on commence à appliquer les principes du royaume de Dieu. Et la réalité, frères et sœurs, c'est que vous et moi, dans nos pays ici occidentaux, on vit dans l'abondance. Je ne dis pas que nos fins de mois sont toujours faciles, mais on vit dans l'abondance. Laissez-moi vous donner quelques chiffres qui viennent de l'UNICEF, donc un organisme très officiel. Plus d'un milliard d'êtres humains, donc une personne sur sept sur Terre, vit avec moins d'un euro par jour. Et si on monte à 2 euros par jour, ben là c'est près de 3 milliards, donc près de la moitié de la population sur Terre vit avec moins de 2 euros par jour. 2 euros par jour, frères et sœurs, c'est même plus le prix d'un pain en boulangerie. C'est plus cher. Donc, vous et moi, même si on peut avoir des fins de mois difficiles, nous vivons dans l'abondance financièrement. C'est une réalité. Et le titre que j'ai donné à mon message ce matin, c'est « Les 7 types d'investisseurs dans le royaume de Dieu ». Alors, je vais le montrer, j'espère que ça va marcher. Ah, j'ai fait trop vite. Voilà. Waouh ! Les 7 types d'investisseurs dans le royaume de Dieu. Je suis épaté moi-même. En fait, j'aime pas trop qu'on parle, quand on parle du royaume de Dieu, de parler de donneur. Je préfère le terme investisseur. Quelle est la différence entre un donneur et un investisseur ? Quand on donne gratuitement, sans espoir, sans attente en tout cas, de retour. Quand on investit dans quelque chose, on y consacre de l'argent, mais c'est dans l'espoir, dans l'attente d'un retour sur investissement. Et quand on gère nos finances selon ce que Dieu veut, c'est toujours un investissement, c'est jamais un don gratuit. On le fait comme un don gratuit, mais la réalité spirituelle, c'est que c'est un investissement. Et dans ce voyage, je parle de voyage, mon but ce matin, c'est pas de vous convaincre, c'est plutôt de vous aider à rentrer dans un voyage avec le Seigneur sur le sujet de vos finances. Puisque de l'argent, on en a tous, on est tous amenés à le gérer, à le budgétiser. Et j'aimerais ce matin vous montrer comment Dieu, il souhaite qu'on gère l'argent quand on est citoyen du royaume de Dieu, et vous permettre de grandir dans ce voyage. Je pense vraiment que ce n'est pas quelque chose qu'on impose à faire, mais c'est un voyage de confiance en Dieu que Dieu nous appelle à faire. Et je vais beaucoup faire référence au chapitre 8 de 2 Corinthiens. Et juste, je vous situe le contexte pour que quand j'en parle, vous puissiez le comprendre. Paul est en voyage, il va revenir vers Jérusalem, mais en revenant vers Jérusalem, il va passer par l'Asie mineure, là où il a fondé beaucoup d'églises, dans le but de récolter une collecte de fonds pour les chrétiens de Jérusalem. Et pourquoi pour les chrétiens de Jérusalem ? Parce que la particularité de ces chrétiens de Jérusalem, c'est que ces juifs qui se convertissaient au christianisme étaient souvent mis en marge de la société, puisqu'ils renonçaient au culte des ancêtres pour devenir chrétiens, si bien que s'ils faisaient du commerce, ils étaient exclus de la vie commerciale de leur pays. On n'achetait plus chez eux, on ne leur vendait plus, et donc beaucoup de juifs de Jérusalem qui devenaient chrétiens en fait se retrouvaient dans les dettes parce qu'ils ne pouvaient plus participer à la vie économique. Et donc il y avait en Asie mineure, les chrétiens d'Asie mineure qui ne vivaient pas les mêmes pressions économiques, avaient décidé de faire une collecte, de la donner à l'apôtre Paul pour que l'apôtre Paul, arrivé à Jérusalem, puisse la leur donner. Et il va leur dire justement aux Corinthiens, je vais citer beaucoup de versets, donc on ne va pas tous les prendre. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, il leur dit aux Corinthiens, vous êtes riches en tout. Par conséquent, nous désirons que vous vous montriez riches également dans cette œuvre généreuse, en parlant de cette collecte. Et dans une autre version, il est dit, vous excellez en toutes choses. Du coup, excellez aussi là-dedans. Et ça rejoint mon idée de dire, dans notre façon de gérer nos finances, il y a un chemin vers l'excellence dans lequel on s'inscrit, et j'aimerais vous en décrire ici les étapes. La première étape, le premier type d'investisseur, ben en fait, c'est même pas un investisseur, c'est l'épargnant, c'est celui qui n'investit pas. Je vous lis 1 Timothée chapitre 6, verset 17, où Paul il parle à Timothée, qui est pasteur de l'église d'Éphèse, il lui dit « Tu recommanderas aux chrétiens qui possèdent des richesses en ce monde, et Je vous ai expliqué comment nous sommes des chrétiens riches dans ce monde, aujourd'hui en 2018. Donc tu recommanderas à ces chrétiens qui possèdent des richesses en ce monde de se méfier de l'orgueil et de l'ambition. Qu'ils ne se mettent pas à regarder les autres de haut et ne placent pas leurs espoirs dans des biens si instables. Que leur espérance soit tout entière en Dieu lui-même. C'est lui qui pourvoit largement à tout ce qui est nécessaire. Il nous dispense généreusement toutes ses richesses afin que nous en jouissions. Quand on en vient au sujet des finances, on est toujours un peu mal à l'aise quand on parle de ça. J'aime bien cette anecdote de trois pasteurs qui parlent ensemble et ils parlent entre eux comment est-ce qu'ils gèrent l'argent des dîmes et des offrandes. Et donc il y a un pasteur qui dit « Moi c'est simple, je me mets au centre d'un cercle, je dessine un cercle autour de moi, tout ce qui a été dans le panier d'offrande, je jette tout en l'air, tout ce qui retombe hors du cercle, c'est pour Dieu, tout ce qui retombe dans le cercle, c'est pour moi. » L'autre pasteur, il dit « Ah, c'est bien, moi je fais tout l'inverse, je jette tout en l'air. » Et il dit « Tout ce qui tombe dehors du cercle, c'est pour moi, tout ce qui tombe dans le cercle, c'est pour Dieu. » Et le troisième pasteur, il rigole, mais il dit « Les gars, vous avez rien compris. Dieu, il est tout puissant, n'est-ce pas? Tout l'or et l'argent lui appartiennent, n'est-ce pas ?»« Ah, bah, oui, c'est vrai, c'est vrai. » Et il dit « Moi, ma technique, elle est simple, je prends l'argent, je jette tout en l'air, tout ce qui reste en l'air est pour Dieu, tout ce qui retombe, c'est pour moi. » Et on est des fois de ce genre-là, se dire « J'en ai besoin, j'en ai besoin, j'en ai besoin. » On n'est pas un investisseur au final, on est dans ces cas-là un épargnant. L'épargnant, c'est quelqu'un, si je vais le décrire, comme vous savez, ce personnage du conte de Charles Dickens, le Noël de Scrooge, qui a été rendu populaire par le Noël de Mickey, vous savez, c'est interprété par Picsou. Cet homme qui place sa sécurité dans son argent. Et finalement, ce que Bruno partageait dans la parole que le Seigneur lui avait donnée, ça rejoint vraiment ça. Quand il y a un vide en nous qui n'est pas comblé par Dieu, qu'est-ce qu'on essaye de faire de toute évidence avec un vide? C'est de le combler. Et si Dieu ne le comble pas, l'être humain va trouver autre chose pour combler ce vide qui est béant dans tout être humain. Et une des manières de combler le vide, c'est justement de tout baser sur notre enrichissement, sur nos finances, sur notre épargne finalement. Comme Dieu est source de sécurité et de confiance en l'avenir, puisqu'on confie notre avenir entre les mains de Dieu, les gens qui ne placent pas leur confiance en Dieu essayent de trouver eux-mêmes, de se fabriquer eux-mêmes des moyens de sécurité. Mais on voit à quel point placer notre sécurité dans les finances, ça marche pas, frères et sœurs. La crise de 2008, elle est là pour nous le montrer. Des gens qui étaient riches monétairement, je sais pas si c'est un adverbe qui existe, mais je le trouve bien, qui étaient riches financièrement, ont vu toutes leurs économies fondre comme neige au soleil et ne plus rien valoir, perdre leur maison, perdre toute chose, parce que leur sécurité était bâtie sur ça, justement. Proverbe 3:27 dit « Si tu en as le moyen, ne refuse pas de faire du bien à celui qui est dans le besoin. » Et ça s'adresse aussi à l'argent. Dieu désire que l'argent qui en notre possession soit utilisé, entre autres, pour bénir autrui. Et c'est pas que on doit le faire. C'est pas que Dieu nous oblige à le faire. Si on ne donne pas, on ne pêche pas finalement. Mais c'est quelque chose dans lequel Dieu nous invite à rentrer. Et la décision que Dieu nous invite à prendre, c'est de dire l'argent ne me contrôlera pas. Je refuse, parce que je suis un enfant de Dieu, parce que je suis un citoyen du ciel, je refuse de laisser l'argent me contrôler. Toujours dans Proverbe 11:24, pour vous montrer à quel point ce stade de l'épargnant n'est pas du tout souhaitable pour aucun d'entre nous, Proverbe 11:24 nous dit « Si un tel y donne libéralement, avec beaucoup de générosité, ses richesses, et elles s'accroissent, ses richesses s'accroissent, mais un autre va épargner à l'excès et va se trouver, lui, dans la pauvreté. » Comment est-ce possible de donner avec générosité et d'être encore plus riche et d'épargner à l'excès et de se retrouver dans la pauvreté? C'est une logique agricole, frères et sœurs. Celui qui récolte son champ et qui va tout garder pour l'année prochaine, pour ensemencer son champ l'année prochaine, ben, s'il ne profite pas de sa récolte, s'il ne mange pas sa récolte, il sera mort d'ici l'année prochaine. Tandis que celui qui, oui, c'est vrai, va tout manger, lui, il va se retrouver dans le besoin. La logique de Dieu, c'est de se dire, on n'a pas besoin d'épargner à l'excès. C'est pas ce qui est nécessaire, puisque, et vous connaissez ce verset, les bontés de Dieu, elles se renouvellent tous les matins. C'est Jérémie qui nous dit ça dans les Lamentations, la bonté de Dieu se renouvelle tous les matins. Je me souviens, une année, je devais préparer un message pour la petite réunion de prière et aucune idée me vient. Et juste avant, je devais aller faire des courses et je tombe. On était le dernier mardi, parce que notre réunion de prière, c'est le mardi. On était le dernier mardi du mois de novembre. Et je vois là, juste devant moi, le nouveau Beaujolais qui est là. Et directement, ça m'a fait penser à ce verset de Lamentation, que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Il n'y a aucun d'entre nous qui, le troisième jeudi du mois de novembre, va acheter 36 cartons de Beaujolais en se disant « si l'année prochaine il n'y en a pas, au moins j'ai celui-là ». Puisque le principe du Beaujolais, c'est d'acheter du Beaujolais nouveau. Faire ses réserves pour des années, ce n'est pas du Beaujolais dans ce cas-là qu'il faut acheter. Et avec le Seigneur, nos finances, bah, c'est la même chose. Le principe, c'est celui qui est révélé par la manne dans le désert. Souvenez-vous, Dieu avait dit « ben, chaque matin, vous aurez de quoi manger. Et chaque matin, prenez ce dont vous avez besoin pour le jour qui est là. Prenez pas davantage, prenez pas moins. Prenez juste de ce dont vous avez besoin. » Pourquoi est-ce que ça aurait arrangé le Seigneur de faire ça une fois par semaine? Faites vos provisions, mettez dans votre frigo ou dans le congélateur. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit de prendre pour une semaine à votre avis? Quel était le message que Dieu voulait faire comprendre à son peuple en disant « Non, non, chaque matin, même s'il y a plus, vous prenez juste ce dont vous avez besoin. » Pourquoi est-ce que le Seigneur avait fait cette demande? Pour apprendre à compter sur lui. Parce que si on prend davantage, c'est qu'on n'a pas vraiment confiance en lui. On se dit « Ok, aujourd'hui il bénit, mais peut-être pas demain. » Mais le fait de prendre juste assez pour demain, et c'est aussi le sens de la prière de Jésus, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », c'est de dire « Je sais que demain, c'est un autre jour, et là tu me donneras le pain de demain. Mais je te fais confiance que chaque jour, eh bien, tu vas me bénir. » Et c'est ce que Jésus va dire. Et c'est des merveilleux versets, Matthieu chapitre 6, versets 25 et 26. « C'est pourquoi je vous dis, dit Jésus, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, ni de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Et il va dire aux gens, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Est-ce que vous ne valez pas beaucoup plus que des moineaux ?» Amen. Et donc, dans nos finances, frères et sœurs, on doit apprendre de se dire, je ne suis pas là à dire, ben voilà, il faut avoir aucun compte épargne, il faut gérer notre, faut pas gérer notre argent, il ne faut pas budgétiser, mais il ne faut pas placer notre confiance là-dedans. Notre confiance, elle doit être placée en Dieu. Et ça, c'est ce que l'épargnant, il n'a pas encore compris. Et une fois qu'il a compris ça, je pense que le stade d'après, c'est celui qui devient investisseur, mais par obligation. C'est celui qui donne, mais vous savez, quand il donne 1 euro dans le panier, il y a Marianne qui pleure avec lui. Parce que ça lui fait trop de mal. J'aime bien cette histoire du paradis de l'argent. Donc tous les billets, toutes les pièces arrivent au paradis. Et Saint-Pierre, c'est une histoire, hein, frères et sœurs, d'accord? C'est pas biblique. On sait bien que c'est pas Saint-Pierre qui nous accueille. Bref, quoi qu'il en soit... C'est le paradis de l'argent, et là tout le monde arrive. Le billet de 50 y arrive, le billet de 20, le billet de 10, et même les petites pièces, 2 euros, 1 euro. Et Saint-Pierre, il dit, ok, on va se mettre par ordre d'importance. Tout devant, enfin tout derrière, on va mettre le billet de 50 euros. Devant lui, on va mettre le billet de 20, et il va comme ça en ordre décroissant. Et la petite pièce de 5 cents, il lui dit, mets-toi devant. Et là-bas, au fond, il y a le billet de 50 euros qui se met à râler, il dit, hey, mais c'est quoi ces histoires? Je suis quand même plus important, je vaux beaucoup plus que cette petite ridicule pièce de 5 cents. Et Saint-Pierre lui dit, toi mon ami, on ne t'a pas vu souvent à l'église. Mais la petite pièce de 5 cents, elle était là très souvent. Je parle de ça parce que l'investisseur par obligation, c'est celui qui donne mais sous la culpabilité. La Bible, elle dit que je dois donner, si je ne donne pas, Dieu va me châtier, et etc., etc. En fait, le problème c'est que Dieu ne souhaite pas qu'on donne parce qu'on doit le faire, mais il veut qu'on le fasse par reconnaissance envers lui, envers qui il est. Dans les Actes, c'est très intéressant, Paul il va nous dire, souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est très intéressant parce que finalement, c'est pas dans la bouche de Jésus, dans les évangiles. C'est plutôt étonnant. Paul, il dit ça, mais Jésus, on ne retrouve pas ça dans les évangiles. Donc, de toute évidence, c'est un des compagnons de Paul qui a dû lui dire, tiens, tu sais, Jésus, à un moment, il a dit ça. C'est peut-être Luc, c'est peut-être Marc qui a révélé ça à Paul. Mais en tout cas, il y a une grande vérité là derrière, c'est qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Moi, une des périodes que je préfère dans l'année, c'est Noël. Parce que Noël, c'est bien évidemment la naissance de Jésus, mais c'est aussi un temps de famille et on peut se faire des cadeaux. Quand j'étais petit, on ne se faisait pas beaucoup de cadeaux aux anniversaires, mais c'était Noël. Tout le monde faisait des cadeaux à tout le monde. Alors, il n'est pas là, je peux vous le dire, les cadeaux de Pierre n'étaient pas fameux en général, il faut être honnête. Parce que Pierre, mais c'est vrai, il le sait. Enfin, il sait que je le pense et il n'est pas d'accord avec moi, mais... Donc, Pierre, en fait, il offre des cadeaux qu'il aimerait bien recevoir. Ce qui l'arrange quand on n'a pas besoin, parce que... Donc, mais ce qui est embêtant quand vous recevez un cadeau, parce qu'il faut faire, vous savez, le visage de circonstance. « Ah, merci, comment t'as su ?» Mais moi, mon plaisir, c'était de faire l'espion pendant les semaines, les mois qui précèdent, à pouvoir me dire « Mais qu'est-ce qui ferait vraiment plaisir ?» Je me retrouvais à acheter des trucs que je trouvais absolument nuls à mes yeux, mais je savais que ça allait faire plaisir à mon papa, à ma maman. Et maintenant, pareil pour nos enfants. Je ne sais pas ceux qui ont des petits-enfants qui leur font le cadeau, vous savez, celui qu'ils ont tellement attendu, dont ils ont rêvé, qu'ils ont entouré, fait des croix dans le catalogue de jouets, qui ont mis sous votre oreiller pour vous faire passer des messages subliminaux. Vous dites vraiment, j'aimerais ça. Et le jour où vous leur offrez, oh, et ça, c'est vraiment, vraiment génial. Et je crois que quand on investit pour notre Seigneur, on devrait ressentir cette joie de donner. Pas donner par culpabilité, parce qu'on doit, mais vraiment donner avec joie. Et je vous lis ce que Paul dit toujours aux Corinthiens, chapitre 9, verset 5. « J'ai donc jugé nécessaire d'inviter ses frères, donc il parle aux Corinthiens, à me devancer, donc les gens qui sont censés faire la collecte, à me devancer chez vous pour organiser par avance cette collecte que vous avez promise. » Ainsi, elle sera prête à mon arrivée, puisque Paul allait arriver quelques semaines, quelques mois plus tard, et sera l'expression d'un don libre et généreux, non pénible et forcé. Un don libre et généreux et pas pénible et forcé. Je voudrais vraiment vous dire, frères et sœurs, dans ce qu'on peut donner au Seigneur, si on donne en faisant la tronche, Dieu il se réjouit pas de ça. Il va de loin préférer quelqu'un qui donne une petite somme avec joie plutôt que quelqu'un qui donne des richesses avec regret, vraiment, par culpabilité. C'est pas la façon dont Dieu voit les choses. Je continue, puisque on est au bas de l'échelle ici, on va essayer de monter les échelons ensemble. Le suivant, c'est l'investisseur occasionnel. C'est celui qui donne, mais en fait, qui donne quand il y pense, ou qui donne quand il a l'occasion. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est déjà bien, bien, bien mieux que l'épargnant, celui qui ne donne pas et celui qui donne, mais avec un mauvais cœur. Mais le donneur occasionnel, l'investisseur occasionnel, quand il voit un besoin, il n'a pas de mal à donner. Et c'est bien, mais c'est pas la finalité. Paul, il va dire à Tite 3,14, il faut que les nôtres, donc en parlant des juifs et des chrétiens, aussi apprennent à donner de bonnes œuvres, de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. J'aime bien le verbe, et j'en avais déjà parlé tantôt, le verbe que Paul utilise. Paul, il explique que les chrétiens doivent apprendre, que c'est un apprentissage. Le problème avec le donneur occasionnel, frères et sœurs, c'est qu'il n'y a pas de discipline là-dedans. On ne peut pas compter sur lui. On ne peut pas mener de projet avec quelqu'un qui ne base ça que sur ses sentiments. Je pense qu'on peut voir ça de manière encore plus claire quand on parle du mariage. Moi, je dis toujours aux jeunes couples que le mariage ne peut pas, ne doit pas être fondé sur l'amour. Voilà, tout le monde me regarde. Surtout les jeunes filles, les adolescentes. Pourquoi ? Il y en a qui, Bruno, je suis sûr, il pense à des gens, en fait. C'est là que tu bénis le Seigneur d'avoir que des mecs, hein, ouais, Bruno. Mais pourquoi je dis ça? L'amour ne peut pas être fondé sur juste le sentiment de l'amour. Le mariage ne peut pas être fondé juste sur ça. Parce qu'un sentiment, c'est totalement instable. C'est un sable mouvement. Mouvant. Et j'aimerais vous révéler, mes sœurs, un secret que vos maris vous cachent depuis trop longtemps, c'est qu'il y a des jours, ils vous aiment et vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a des jours, ils vous aiment. Il y a des jours, ils vous aiment bien. Et il y a des jours, ils vous supportent. Et je sais, que, en fait, mes frères, pour nos sœurs, c'est la même chose. Faut être honnête, en fait. Mais qu'est-ce qui fait qu'un mariage dure ? C'est pas uniquement l'amour. Bien évidemment, c'est l'amour. Mais pourquoi il y a autant de divorces aujourd'hui ? Parce que tous les mariages, beaucoup trop de mariages sont fondés uniquement sur ce sentiment très instable qu'est l'amour, ou pire encore, sur le sentiment encore moins instable d'une certaine proximité sexuelle. Ça va bien, ça colle bien. Et dès que cette complicité, elle disparaît, on se sépare. Et c'est ça le drame du couple aujourd'hui. Donc, quand le donneur occasionnel, il ne fait reposer sa générosité que sur la bonne occasion, sur le bon moment, comme il n'y a pas de discipline, il ne peut pas porter de fruit. C'est le mot qui est utilisé par Paul, pour qu'il porte du fruit. On ne peut pas porter du fruit à long terme. Le donneur occasionnel, le souci qu'il y a, c'est qu'il se dit « Le Seigneur peut compter sur moi. Quand je verrai quelque chose, je le donnerai. » Et ça, c'est super. Le seul problème, frères et sœurs, c'est que les ministères qui travaillent à l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le Seigneur. Que l'Église, ce n'est pas le Seigneur. Et que si dans une assemblée locale, tout le monde se disait « La même chose, je donne quand je peux, quand j'en ai l'occasion, quand j'en ai les moyens. » L'Église, une Église locale ne peut pas fonctionner, ne peut pas vivre avec ça. C'est la limite. C'est formidable d'être un donneur occasionnel. Mais si on reste un donneur occasionnel, une assemblée locale ne peut pas se développer. Un ministère ne peut pas se développer. Et c'est pourquoi on doit passer un moment à l'étape suivante. À avoir de la générosité, mais à devenir bien logiquement un investisseur régulier. Et là, j'aimerais vous montrer une directive très concrète que va donner l'apôtre Paul aux habitants de Corinthe, justement. Et on va lire, c'est dans 1 Corinthiens, au chapitre 16, versets 1 et 2, je vous lis. Paul, il leur dit « Venons-en à la question de la collecte, en faveur de ceux qui sont en Judée, appartiennent à Dieu. » Paul leur dit « J'ai déjà donné mes directives aux églises de la Galatie, suivez-les vous aussi. Que tous les dimanches, chacun de vous mette de côté, chez lui, une somme d'argent selon ce qu'il aura lui-même gagné, pour qu'on n'ait pas besoin d'organiser des collectes au moment de mon arrivée. » C'est très 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 pragmatique, très très logistique finalement, la manière dont Paul y présente ça. Il dit ben voilà, chaque semaine qu'on puisse mettre de côté. Pourquoi ? Parce que quand on n'est pas avisé et qu'on se dit ben oui, je vais donner à la fin du mois, je vais donner ce qui reste. Franchement, frères et sœurs, moi je sais pas vous, mais moi à la fin du mois, il me reste pas grand chose parce que j'ai 4 enfants et surtout parce que j'ai une femme. En plus, c'est vraiment pas bien parce que t'es pas du tout dépensière, ma chérie. C'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien. Non, c'est pas vrai. Mais la réalité, elle est celle-ci, c'est qu'en fin de mois, le mois ayant passé, les surprises ayant été là, si on dit, ben voilà, à la fin de mois, on va donner ce qui reste au Seigneur, on donnera pas grand-chose finalement, puisque en fin de mois, c'est toujours difficile de gérer son budget jusqu'à la fin du mois. Mais en donnant de manière régulière, on permet à l'Église de s'édifier. Et ce mot édifier, il est utilisé beaucoup de fois dans la Bible, et littéralement, il signifie bâtir la maison, brique par brique. À chaque fois qu'on investit dans le royaume de Dieu, eh bien, on construit l'Église brique par brique. On permet à l'Église de se construire. C'est le Seigneur qui apporte la vie, mais qui est-ce qui construit l'Église, frères et sœurs ? C'est vous et c'est moi. C'est le Seigneur qui visite l'Église, c'est le Seigneur qui bénit l'Église, c'est le Seigneur qui fait prospérer l'Église. Mais qui est-ce qui a la charge de la bâtir ? C'est pas le Seigneur. Jésus-Christ sur terre n'a pas bâti l'Église. C'est vous et moi qui la bâtissons jour après jour. Et on est appelé à devenir ce genre d'investisseurs qui mettent la priorité à investir dans le royaume de Dieu. Et bien évidemment, il n'y a pas que ça dans l'assemblée locale. Néanmoins, il y a quand même une logique, frères et sœurs. Qui va venir te visiter quand tu es malade ? C'est le pasteur de ton assemblée. Qui va prier pour toi quand tu passes par des difficultés ? C'est tes frères et sœurs de ton assemblée locale. Tes enfants sont au bénéfice de quel ministère des enfants ? De cette assemblée ici. Tous les dimanches, tu viens, tu es béni par la louange qui est conduite, tu es béni par les messages qui sont apportés, grâce aux gens, aux frères et sœurs qui s'impliquent ici. Du coup, dire... Je donne pour Dieu, mais je ne donne pas à mon église locale, je donne à des œuvres chrétiennes, mais hors mon église locale. Il y a au mieux une incohérence, au pire de l'ingratitude dans cette attitude-là. On peut pas. On est au bénéfice de frères et des sœurs qui s'investissent ici, d'un local qui est ici, et on se doit en premier de bénir notre assemblée locale. Et Je pense qu'on commence par ça. Et on peut, bien évidemment, bénir d'autres œuvres qui se font. Je cite quelques-unes que je connais et pour lesquelles Dieu nous a travaillé, puisque ce parcours-là est vraiment, je dis avec beaucoup d'humilité, je suis passé par toutes les étapes, hein, frères et sœurs. Vous verrez le top, j'y suis même pas encore arrivé moi-même, et je sais que c'est la direction dans laquelle le Seigneur m'amène, mais à un moment, je donnais uniquement par culpabilité, parce que je sentais que je faisais, et que si je faisais pas, si je donnais pas, Dieu était fâché sur moi. Aujourd'hui, j'en suis plus là, merci Seigneur, j'ai pu grandir, et petit à petit, le Seigneur nous a montré, en plus de l'église locale, des œuvres que nos finances nous permettaient de soutenir. Dans notre cas, il y a le CEL, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association chrétienne qui bénit les enfants dans les pays plus pauvres. Et donc, on peut, pour vraiment une somme raisonnable, permettre à un enfant d'aller à l'école, d'entendre parler l'évangile et de recevoir des repas tous les jours qu'il ne recevrait pas s'il n'y avait pas des gens en Occident qui le faisaient. Je me permets de le dire, et je sais que Bruno m'en voudra pas, mais je sais qu'il y a quelques semaines, vous avez reçu ma sœur Anne-Cathy et mon beau-frère David qui partent en Afrique. Et eux ont reçu la directive de la part de l'association missionnaire de la WEC de ne pas demander aux églises de les soutenir financièrement. Maintenant, moi, je peux le dire en tant que responsable de l'église dans laquelle ils sont inscrits et aussi en tant que frère dans la chair, bien évidemment, c'est qu'ils vivent de dons, que s'ils n'ont pas de dons, ils ne peuvent pas payer leur loyer. Donc, on a été interpellés, Kathleen et moi, aussi à les soutenir financièrement. Et régulièrement, quand on a des ministères qui sont invités à l'église, des ministères qui vivent de ça, de se dire, ben voilà, on va donner en plus de ce qu'on donne pour l'église locale, on va donner en plus pour bénir ces ministères. Et je dis ça vraiment parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont fait des choix énormes. Et on n'est pas tous appelés à aller en Asie, en Afrique, pour tout délaisser ici pour s'investir là-bas. Mais on peut tous, je pense, on doit tous, on devrait tous se sentir concernés par des frères et des sœurs qui abandonnent tout. Et pouvoir les bénir en fonction de nos moyens, avec joie, avec libéralité, mais qu'on puisse devenir justement ces investisseurs réguliers. Et j'avais entendu, c'était en Angleterre, une association des frères et des sœurs qui subventionnait des évangélistes pour qu'ils puissent inviter des inconvertis au restaurant. Et vraiment des restaurants 4 étoiles. En disant, ben voilà, je vais t'annoncer l'évangile, enfin ils disaient pas ça comme ça, mais viens, je vais te parler de Jésus, on va aller dans un resto. Et il y avait des chrétiens qui payaient les additions de ces restos chics pour que des gens puissent entendre parler de Jésus. Et je trouve ça vraiment formidable de trouver, et là c'est le Saint-Esprit qui va vous révéler ça, comment investir mon argent, mes finances, de manière inspirée. Et je crois vraiment que l'argent dont on dispose, on en est dépositaire, frères et sœurs. Vous savez, comme ces grands hangars où on dit c'est des hangars de déposition, la marchandise ne leur appartient pas. Ils sont juste là pour assurer la logistique. Et dans les finances que Dieu nous donne, on est des dépositaires. On est amené à répartir ce que Dieu nous donne. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui sont plus fortunés, parce que Dieu se dit, à eux je peux donner, parce que je sais qu'ils vont pouvoir répartir, qu'ils ne vont pas garder pour eux. Allez, on continue notre chemin, notre apprentissage, frères et sœurs. Cinquième stade, c'est l'investisseur proportionnel. En plus d'être régulier, il a compris que le Seigneur, combien, de manière au niveau pourcentage, combien le Seigneur lui amène à donner. Et la dîme, donner un dixième de nos revenus, c'est un commandement biblique de l'Ancien Testament. Paul il va dire aux Corinthiens, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Et la dîme, frères et sœurs, elle est vraiment inspirée de Dieu. Certains disent c'est dans l'Ancien Testament, c'est une loi de l'Ancien Testament et maintenant on est sous la grâce. Alors, oui et non, puisque le premier à donner sa dîme à l'Éternel, ça a été qui ? Le tout premier à le faire. Le père des croyants. Ça a été Abraham, à Melchisédek, qui était une figure de l'Éternel. Et il va lui donner un dixième de ses revenus. Et Jacob, son petit-fils, va faire pareil, va faire serment à l'Éternel de donner un dixième de tout ce que Dieu lui donnera, de lui rendre un dixième de tout. Ce qui m'interpelle là-dedans, pourquoi je vous parle d'Abraham et de Jacob ? Parce que eux vivaient plus de 1000 ans avant que la loi ne soit donnée au peuple d'Israël. Donc ça veut dire, est-ce qu'ils avaient sucé ça de leur pouce? Bien évidemment que non. On comprend que Dieu leur avait mis au fond du cœur une conviction qui était de donner 10%. C'était une manière de montrer à Dieu qu'il avait plus importance pour eux, pour eux, Dieu avait plus importance que leurs finances. Donc ce commandement, il est inspiré de Dieu. Il ne dépend pas de la loi. La loi a juste, l'enseignement du Lévitique a juste mis ça par écrit. Mais finalement, c'était quelque chose de Dieu. Et je trouve que de dire c'est donner 10%, c'est bon pour l'Ancien Testament, ça ne nous concerne plus, je trouve ça très dangereux. Parce que si vous allez voir ce que Jésus a dit sur le sujet, au jeune homme riche, il lui a dit, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Finalement, donner 10%, c'est peut-être intéressant quand même, plutôt que de donner tout aux pauvres. La réalité, elle est celle-ci. On a une meilleure alliance donnée par Dieu. Et donc 10%, frères et sœurs, j'aimerais vous dire dans la vision de Dieu, du royaume de Dieu, 10%, c'est le plancher. C'est pas le plafond. Et c'est ça peut-être le plus grand souci avec donner sa dîme, c'est que on donne et on se dit, c'est bon, j'ai donné ce qu'il faut, tout le reste m'appartient. Je donne, c'est mon argent, je donne 10% à Dieu, mais le reste m'appartient. La réalité, elle n'est pas celle-ci. La réalité, c'est que 100% appartient à Dieu. Et que 90%, eh bien, Dieu, il nous les laisse, en fait. Dieu nous les donne. Et il y a juste 10% qu'on lui rend. C'est pas qu'on lui donne, c'est qu'on lui rend. Et c'est pas que Dieu veut qu'on vive dans la pauvreté, frères et sœurs. Jésus, il était bien habillé, on nous dit qu'il avait une tunique en une seule pièce, c'était un vêtement de luxe quand même à l'époque, on nous dit qu'il mangeait bien et qu'il avait une bonne vie, mais en tout cas ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse vœu de pauvreté, mais Dieu ne veut pas que ça devienne une recherche. Quand si quelqu'un est millionnaire et qu'il dit je donne 10% de tout ce que j'ai à Dieu, c'est génial, mais quand on gagne 1 million et qu'on donne 10% à Dieu et qu'on garde le reste, je ne pense pas qu'on a besoin de 90%, de 90%, d'un million pour vivre. L'idée, elle est celle-ci, c'est de se dire, Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse garder ce qui est raisonnable et le reste donner à Dieu. J'avais entendu l'anecdote, je pense qu'elle est vraie, mais j'avais entendu du patron de Caterpillar, qui était un chrétien, et qui, sur la fin de sa vie, donnait 90% de tout ce qu'il gagnait à l'église, à Dieu, parce qu'il pouvait très bien vivre avec 10%. Il gagnait des sommes faramineuses, mais 90% de ce qu'il gagnait, il le réinvestissait en Dieu. Ça, c'est celui qui a compris cette cinquième étape, de devenir un investisseur proportionnel, de grandir dans son apprentissage. Alors, l'avant-dernière étape, les deux apparaissent d'un coup, du coup, c'est pas grave. L'investisseur généreux, c'est celui qui va aller au-delà même de ce qui est proportionnel. Je vous lis ce que Paul il va dire aux Corinthiens, toujours dans son, quand il parle de la collecte, car il s'agit non de vous exposer à la détresse, pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Donc le superflu de ceux qui habitent en Asie mineure, il pourvoira aux besoins de ceux qui vivaient à Jérusalem. Et continue, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Paul est en train d'expliquer, voilà, au niveau financier, vous êtes dans l'abondance, ils sont dans le besoin. Au niveau spirituel, ils sont dans l'abondance et vous êtes dans le besoin. Et la balance que Dieu il instaure, c'est de dire que quand on bénit financièrement, spirituellement, on est béni. Spirituellement, Dieu nous donne. Et c'est la logique de Dieu, c'est de se dire, ben voilà, si lui, ce qu'il a, il le répartit, je peux lui donner plus parce que je sais qu'il ne va pas le garder pour lui. Il va être généreux avec ce qu'il donne. Et pour moi, ça a été vraiment un défi le jour où avant une offrande, j'ai dû faire un petit message à l'église de Mouron et j'avais parlé de ce verset de Malachie où il est dit, mettez Dieu à l'épreuve. Mettez Dieu à l'épreuve au niveau des finances. Et j'avais encouragé mes frères et sœurs à mettre Dieu au défi et de donner plus peut-être que ce qu'ils avaient prévu de donner. Et à ce moment-là, je me dis, vraiment, je me sens interpellé par le Saint-Esprit, que je ne peux pas dire ça à mes frères et sœurs et pas le faire moi-même. Et j'ouvre mon portefeuille et il y avait de l'argent liquide puisque l'après-midi même, on partait en vacances, c'était au mois de juillet, et il y avait de l'argent liquide pour nos vacances. Et je savais que j'avais besoin de cet argent. Mais je me dis, je peux pas dire ça à mes frères et sœurs et pas donner. Et j'ai donné, et je pense que là, ce jour-là, Marianne, elle pleurait quand j'ai mis ce que j'ai donné. Mais vraiment, Seigneur, c'est pour mes vacances. vous savez, les sacro-saintes vacances, et je donne. Mais j'étais content de l'avoir fait. Et à la fin du culte, une sœur vient me voir en me disant, bah écoute, j'ai à cœur de te donner quelque chose financièrement pour vos vacances. Et il y avait dans l'enveloppe 7 fois plus que ce que j'avais mis dans l'offrande. Je dis pas que ça va se passer à chaque fois, frères et sœurs. Mais en tout cas, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. J'ai mis Dieu au défi et Dieu a répondu. Et à la même période, ça m'avait fait réfléchir, j'avais un voisin qui était décédé, un monsieur vraiment en pleine santé. Il avait 70 ans, mais vraiment en pleine santé. Il était toujours dans son jardin occupé de faire ses légumes. Et il est décédé bêtement d'une fausse route. Donc il était invité chez des amis pour un barbecue. Et un morceau de nourriture était parti du mauvais côté. Il était décédé de ça. C'est vraiment bête. Et je m'étais fait cette réflexion bête. Je me suis dit, tout ce pourquoi il a investi du temps et de l'énergie dans son jardin pour son potager, il n'en verra même pas la récolte finalement. Il n'en goûtera pas le fruit. Et je me dis, quand on investit, frères et sœurs, pour le royaume de Dieu, on en goûte le fruit. Sur cette terre ou dans les cieux, on en goûte le fruit. De pouvoir savourer ce qu'on a investi. Et je crois qu'on doit apprendre à devenir avec l'œuvre de Dieu vraiment généreux. Pas juste se débarrasser de son dont on n'a plus besoin. Et j'aime beaucoup les frères et sœurs qui veulent bénir les églises. Et alors ils apportent, parce qu'ils ont mal au cœur de jeter, ils se disent, oh, c'est trop bête, et ils apportent à l'église tous leurs vieilles VHS pour l'école du dimanche. En disant, ouais, c'est des dessins animés, comme ça pour l'école du dimanche, ça va être bien des dessins animés sur la Bible. Et vous savez, c'est la qualité des cassettes vidéo qu'on regarde plus depuis 20 ans. Et ils donnent en se disant, ouais, génial, j'ai fait quelque chose de bien. Non, c'est pas t'as fait quelque chose de bien, c'est que t'avais juste mal à ton cœur de jeter et t'as donné à l'église. Mais c'est pas faire quelque chose de bien, c'est pas donner les prémices de la récolte. De Caïn ou d'Abel, c'est le sacrifice beaucoup plus de Caïn que celui d'Abel. L'idée, c'est de donner quelque chose vraiment qui te permet de bénir, qui te permet de montrer ta générosité. Et les occasions, elles sont multiples, frères et sœurs. Et un pasteur, un jour, prêchait là-dessus, il disait, quand il avait demandé à Dieu d'être plus généreux, il lui avait pas donné du tout une réponse très spirituelle, il lui avait juste dit, ouvre ta garde-robe et tous les habits que t'as pas mis depuis plus de 6 mois, donne-les à des frères et sœurs. Et 6 mois, frères et sœurs, c'est même pas une saison, mes sœurs. C'est horrible. Je sens qu'il y en a qui disent, non, tout, Seigneur, tout, mais pas ça. Et comme c'était un prédicateur, il avait des costumes, mais qu'il n'avait pas mis depuis plus de 6 mois. Il avait donné des beaux costumes à des frères et sœurs africains qui étaient dans le besoin, et des frères africains qui ne pouvaient pas prêcher en costume. Et ils avaient ces costumes, et ils étaient fiers. Et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes généreux comme ça? Vous en ressortez aussi de la fierté. Amen. Allez, dernière étape. Ouh, elle était déjà là. C'est l'investisseur sacrificiel. Pensez à cette veuve qui a donné au temple. Et Jésus va dire, elle avait donné 1 sou, mais elle a donné plus que tous les autres. 1 sou de l'époque, si on traduit en argent d'aujourd'hui, ça fait 2 euros. 2 euros, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est rien. On le disait tantôt, c'est même plus le prix d'un pain. Mais Jésus va dire d'elle, elle a donné plus que tous les autres parce qu'elle a donné de son nécessaire. Les autres ont donné de leur superflu. Elle a donné de son nécessaire. Et Paul, quand il parle de cette collecte, il va dire aux Corinthiens qu'il y a les Éphésiens qui ont donné au-delà même de leurs moyens. Je vous rassure, on n'est pas appelé à être un investisseur sacrificiel tout le temps, en tout temps. Parce que sinon, tu meurs. Mais il y a des périodes de notre vie où le Seigneur, il veut qu'on lui fasse encore plus confiance. Et il va nous dire, ben voilà, cette fois-ci, je veux pas un petit peu, je veux tout. Et un prédicateur que j'entendais racontait qu'un jour, au moment de l'offrande, en début de mois, le Saint-Esprit, il avait entendu vraiment la conviction de dire, ce mois-ci, je veux pas une partie, mais je veux tout. Et en tant que bon évangélique, il avait tout de suite rejeté cette parole de Satan dans le nom de Jésus. Mais elle venait du Saint-Esprit. Et il avait 6 enfants, et il a fait le pas de foi de donner tout son salaire en entier ce mois-là à l'œuvre de Dieu. Je vous raconte cette anecdote-là parce que moi, je vous dis, frères et sœurs, j'y suis pas encore. Par la grâce de Dieu, je demande qu'un jour je puisse en être capable, mais j'en suis pas encore capable. Mais cet homme-là, il avait fait, et dit pendant un mois, Dieu a pourvu d'une manière extraordinaire. Il raconte qu'il y avait qu'on sonnait à sa porte, il allait ouvrir, les gens avaient disparu, et sur le seuil de la porte, il y avait de quoi manger. Tout des choses comme ça. Et vraiment, quand on montre à Dieu qu'il a plus de valeur que toutes ces choses, que toutes nos finances, Dieu y bénit. Dieu y rend au centuple, vraiment, de manière monétaire, mais de manière spirituelle. Et j'en arrive à ma conclusion, frères et sœurs. Juste de dire, en termes de quantité, Dieu n'a pas besoin de grand-chose. Quand Jésus a nourri des foules, il l'a fait au départ avec 5 pains et 2 poissons. On n'est pas là ce matin à parler de quantité, mais à parler d'investissement mis au pied de Jésus-Christ. Et je voulais ce matin révéler ben voilà, les bons principes, les valeurs qui sont celles du royaume de Dieu quant à nos finances. Et le chemin que Dieu nous appelle à faire, c'est celui-là. Et ce n'est même pas un chemin qu'on doit faire, c'est un chemin que je vous souhaite de pouvoir faire. Dans votre vie, dans votre manière de gérer l'argent, de pouvoir faire. Puisqu'à chaque étape, il y a des bénédictions qui sont là à la clé. Amen. Des bénédictions pour les ministères, pour l'Église, mais pour vous, pour votre foyer, pour nos femmes, pour nos enfants, pour tout le monde, vraiment, il y a des choses à gagner, des bénédictions à arracher à l'ennemi. Amen. Alors, je vais juste proposer qu'on puisse prier. Je me rends compte que ce n'est pas le message le plus, comment dire, celui qui va peut-être plus vous consoler. Mais c'est en tout cas un message, je pense, qui peut vraiment, dans notre démarche avec le Seigneur, avoir un impact à long terme. Amen. Alléluia, on va se placer devant le Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu ne nous laisses pas dans le besoin. Je te remercie parce qu'on vaut beaucoup plus que des oiseaux à tes yeux et que tu nous promets à tous que si on place notre confiance en toi, jamais nous ne manquerons de quoi que ce soit. Je veux te prier pour mes frères et sœurs, pour là où ils en sont dans leur façon de gérer leurs finances. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, que tout à chacun, là où on en est, on puisse encore gravir un échelon. Je te fais cette prière pour mon foyer en tout premier, pour le foyer des responsables de cette assemblée en tout premier aussi, et puis pour chaque foyer représenté ici. Que chacun de nous, on puisse grandir dans notre générosité, dans notre façon de te faire confiance et de mettre notre sécurité en toi et non dans nos finances, Seigneur Jésus. Que vraiment ton œuvre ainsi, elle puisse prospérer. Que l'importance que tu as pris dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes, puisse ainsi grandir aussi, Seigneur Jésus. Que nous puissions te louer avec nos cœurs, avec notre esprit, avec notre corps, mais aussi avec notre portefeuille, Seigneur Jésus. Que nos finances servent à te glorifier. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Sois loué, sois béni. Amen. Amen.